L'heure du carillon. Du carillon est consacré aujourd'hui à la santé. C'est un thème important. Je m'en suis aperçu lors d'une conférence au théâtre. On avait fait comme thème la santé et l'alimentation. Le théâtre était plein. Et en janvier, pour les vœux, tout le monde me dit bonne année et surtout bonne santé. Donc, comme c'est un thème sérieux, on a fait venir deux professionnels. Mais comme CFM est une radio tournée plutôt vers le rock que le catastrophisme apocalyptique, de temps en temps, on ira sur un ton léger. Et je vais commencer tout de suite par un billet d'Alex Raymond sur le malade imaginaire. Argan et sa servante Toinette, déguisée en médecin. Elle dit « C'est du poumon que vous êtes malade, du poumon. Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête, justement le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux, le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur, le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres, le poumon. Et parfois il me prend des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques. Le poumon, vous dis-je. » Remplacez argan par notre vieux pays et remplacez le poumon par le système. Tout ce qui va mal n'a qu'une seule et unique explication, le système, vous dis-je. Chez Molière, la scène ne s'arrête pas là. Après le diagnostic, le remède. Le faux médecin ne se contente pas d'accuser le poumon, il propose des solutions. Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si je n'étais que de vous. Puis, vous avez là aussi un œil que je ferais crever si j'étais à votre place. Transposons dans le climat actuel et l'affaire des affaires, le bras, le système judiciaire, l'œil, le système médiatique, coupons l'un, crevons l'autre, tout ira beaucoup mieux.
Vous êtes à l'écoute de CFM Radio et de Radio Présence, en manette Bernard Lauriac.
Oui, alors donc, Bernard Lauriac, vous m'avez entendu plusieurs fois, c'est pas la peine de me présenter. Par contre, nos deux professionnels, Patrice Calmels, vous nous dites un petit peu...
Oui, je suis donc médecin généraliste à Villefranche-de-Rouergue. À ce titre, je suis quand même, je pense, je m'investis pas mal pour essayer de recruter de nouveaux praticiens sur le territoire. On est en train nous-mêmes de créer une maison de santé et je suis aussi investi au niveau de la communauté de communes.
Très bien. Jean-Paul ?
Alors, Jean-Paul Delange, je suis également médecin généraliste à Villefranche-de-Rouergue. Bon, un peu plus âgé que Patrice, puisque je me suis installé en 1981. Donc, je suis à la fin de mon activité libérale.
D'accord.
Et je suis inquiet.
Bon, on va en parler tout à l'heure. Michel ?
Michel Mombressos, ben, un habitué de l'émission, bon. Animateur.
Émilie, je fais partie du petit groupe d'animateurs de l'émission.
Et tu es aussi, c'est
et je
important.
Je suis infirmière dans un service de gériatrie qui accueille des malades Alzheimer.
Bien, donc avant de continuer, on va mettre une première coupure musicale.
Alors, cette première coupure musicale, il s'agit de Alain Souchon, Allô Maman Bobo.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y'a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y'a rien à faire. suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Près une fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall. Je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Moi je voulais les sorties de port à la voile. La nuit parée les étoiles. Moi les chevaux, le revolver et le chapeau clown. La belle Peggy du saloon. Je suis mal en homme dur et mal en petit cœur. Peut-être un petit peu trop rêveur. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête y'a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête y'a rien à faire. Je suis mal en campagne, je suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman.
De Radio Présence et CFM Radio, l'heure du carillon. On ne sait pas si Alain Souchon a porté plainte à sa maman. Enfin, la chanson était agréable à écouter. Bernard Loyac.
Oui, alors on va commencer par la situation de la santé dans le Villefranchois. Alors, situation... je ne sais pas si elle est inquiétante ou pas.
Le docteur Delon disait justement, en se présentant, qu'il était inquiet par la situation. Vous pouvez nous en dire plus ?
Mais si vous voulez, c'est l'inquiétude, je pense, que partagent beaucoup de personnes et de familles, à l'évidence. Donc, moi, j'arrête mon activité dans quelques semaines. Et je pense que je n'aurai pas de successeur. Alors, c'est vrai, si vous voulez, qu'il y aura d'autres installations. Je rassure aussi les patients. Mais si vous voulez, quand on a accompagné des patients pendant 36 ans... on aimerait bien pouvoir leur présenter un successeur qui va prendre le relais. Bon, ce sera pas le cas, c'est pas dramatique, hein, je crois que on s'en remettra. Mais quand même, et pour autant, l'Aveyron est un des rares départements d'Occitanie où en fait on a un taux d'installation relativement élevé, parce que depuis très très longtemps, nous sommes impliqués dans la formation des jeunes médecins. Mais ça suffit pas.
Pourquoi en est-on arrivé là ?
Alors, les causes sont multiples. Donc, ce fameux numerus clausus, bon, c'est une chose, tout le monde en a entendu parler. L'allongement des études de médecine. Moi, je suis d'une génération, je ne sais pas toi, Patrice, mais j'ai fait 7 ans.
8 ans, moi.
Toi, 8 ans, donc maintenant, c'est 9 ans. Mmh. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est un autre élément.
Et ça passe à 10.
Et ça risque de passer à 10. Mmh. Bon. Mmh. Et la féminisation. Alors, nos collègues femmes sont, bien sûr, d'une grande compétence, il n'y a pas de doute. Il n'empêche qu'elles veulent concilier vie de famille, vie professionnelle. Donc, de fait, elles travailleront quelquefois 3 jours par semaine. Et moi, je ne leur reproche pas. Mais disons que nos décideurs auraient dû intégrer. Voilà. Et quand on sait que notre système de santé fonctionne en allant prendre des médecins à l'étranger, moi, j'estime qu'on devrait plutôt exporter des médecins plutôt que d'aller les chercher ailleurs.
Je suis heureux de vous entendre parler ainsi, excusez-moi.
Pardon, je t'ai coupé. Ceci dit, c'est la même chose pour les prêtres qu'on est obligé d'aller chercher ailleurs.
Oui. Alors, c'est deux ministères différents.
Oui, les médecins de l'âme et les médecins du corps.
Oui. Mais moi, je voudrais savoir, sur le Villefranchois, est-ce qu'on manque de généralistes, de spécialistes?
On va.
C'est ça qui... Okay. On voudrait savoir quelle est la situation, Patrice.
Alors, pour ce qui est des généralistes, c'est la situation que je connais le mieux. Je pense qu'actuellement, on arrive à faire face à la demande. Qu'est-ce qui va se passer dans le départ de Jean-Paul et d'autres départs dans les années qui vont venir? C'est la grosse question, c'est cela. Par contre, je pense qu'on est en train déjà de faire un gros travail pour essayer d'améliorer l'attractivité de notre territoire et de notre communauté, en particulier avec la communauté de communes, donc par différents biais. Moi-même, je suis allé voir les internes à Toulouse pour essayer de promouvoir le territoire en distribuant des plaquettes, en leur montrant qu'on n'était pas perdu au fin fond du monde, qu'on avait quand même une offre, que ce soit au niveau scolaire, au niveau études supérieures, au niveau loisirs,
culturel,
tout oui. à fait, qui était pas ridicule.
Parce que ça, c'est l'environnement aussi.
L'environnement, tout ce qui peut améliorer l'attractivité. Il faut savoir qu'il y a une grosse compétition, je n'ai pas peur de le dire, entre les différents territoires de France maintenant, ou du Midi-Pyrénées, enfin d'Occitanie maintenant, où chacun essaie de tirer les jeunes. Donc c'est vrai que c'est celui qui a l'idée la plus pertinente, ou qui arrive à faire émerger son attractivité personnelle, qui arrive à attirer. Donc il faut vraiment se battre. On est en train, nous, d'établir une plaquette sur la côté de commune pour aller distribuer à Toulouse, où on va mettre en place aussi un référent qui permettra, si un jeune a pour idée de venir chez nous, il aura une référence pour, on l'aidera à trouver un appartement, une maison, un emploi pour le conjoint, enfin, tout un tas de systèmes qui font qu'on espère attirer. Voilà.
Et je pense qu'on peut y arriver. Vous dites, c'est qui?
Eh ben, moi, parce que moi-même, pas mon nom propre, au nom de, on va dire au nom des médecins de la ville, parce qu'on a envie de voir l'avenir pour nos concitoyens. Hein. Mais maintenant, ce qui est nouveau, c'est que le système, enfin, les politiques et la communauté de communes a pris la dimension du problème. Et ça, c'est important. Mmh. On n'est plus tout seul, on est épaulé.
Ça, vous sentez soutenu, voilà.
On est soutenu. Mmh. Ouais.
Et qu'est-ce que vous pensez des mesures coercitives qui sont proposées par certains hommes politiques, du genre limiter l'installation de certains médecins, des nouveaux médecins dans certaines zones qui sont déjà bien dotées?
Donc, quels que soient les pays, elles ont toutes fait leur preuve de leur inefficacité. Si vous contraignez les médecins, ils ne s'installeront pas. Ou alors, il faut dire, on augmente le numerus clausus en première année, et dans 10 ans, eh bien, vous ne pourrez pas vous installer n'importe où. Mais il faut le dire dès le départ. Si vous proposez à ces jeunes médecins qui ont vécu quand même des études extrêmement difficiles, je crois qu'on ne le dit pas assez, si vous voulez, certaines n'en peuvent plus, si vous voulez. Si vous leur dites, mais maintenant, vous allez vous installer à cet endroit et pas à l'autre, à l'évidence, ça ne marchera pas.
Par contre, atteinte à la liberté.
Oui, d'une part, et puis bon, on est quand même dans un système de médecine libérale, ou alors il faut changer radicalement le système, mais pour le moment, c'est tout à fait inenvisageable. Même si c'est des solutions faciles, mais en plus inefficaces. Par contre, il y a des mesures incitatoires. Vous savez qu'il y a des jeunes médecins qui sont financés pendant leurs études et qui, eux, par contre, se sont engagés à s'installer dans les zones déficitaires. Hein. C'est le contrat d'installation en service public, enfin, bon, le CESP. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des mesures incitatoires, mais coercitives, non. Balayons cette idée, cette fausse bonne idée.
Ouais, un petit mot. Ouais, par contre, je pense que c'était comme Jean-Paul ou moi-même qui nous sommes maîtres de stage, ça c'est quand même un atout. C'est-à-dire que ça permet de faire venir les étudiants, de les faire sortir de la région toulousaine pour leur faire découvrir nos cabinets d'Aveyronnais. Et ça, c'est une façon incitative. C'est comme ça d'ailleurs que pas mal de jeunes, c'est ce que disait Jean-Paul, sont venus s'installer à l'Aveyron quand ils ont découvert la pratique
c'est
ça, à l'Aveyron.
Important.
Avec toute la qualité de contact avec les patients et les qualités de contact avec les confrères qu'on peut leur offrir. Ça, c'est important.
Moi, je voudrais quand même revenir sur la démographie parce que malgré tout, ça interpelle les chiffres. On a organisé là samedi un forum de la désinstallation, c'est-à-dire on a invité tous les médecins du département de l'Aveyron qui avaient plus de 58 ans pour que justement ils se préoccupent longtemps à l'avance du devenir de leur patientèle. Il y a 290 médecins généralistes installés en Aveyron. Eh bien nous avons invité 100 médecins de plus de 58 ans, c'est-à-dire que un tiers des médecins ont plus de 58 ans en Aveyron. Le chiffre parle de lui-même.
Oui. Alors, vous avez parlé surtout des généralistes et les spécialistes, parce que je prends mon cas personnel, ma dentiste m'a dit, moi, je vais partir à la retraite. Je connaissais quelqu'un tout près de Villefranche qui fait des études dentaires. Je lui ai dit, vous avez la possibilité de reprendre mon cabinet. Elle m'a dit, non, je ne veux pas m'installer à Villefranche, je veux aller dans une grande ville. Bon, alors, est-ce qu'il y a des problèmes en ce qui concerne les spécialistes? Est-ce que vous êtes un peu au courant?
Alors, effectivement, pour les dentistes, le problème est identique pour les médecins. La plaquette qu'on est en train de faire à côté de communes, elle n'est pas réservée aux médecins généralistes, elle est réservée au dentiste, effectivement, mais aussi au kiné. Parce que là, si vous voulez un kiné à Villefranche maintenant, les délais, c'est à peu près 3 semaines, 1 mois pour avoir rendez-vous. Donc, il ne faut pas la démographie, ce problème de démographie ne concerne pas que les généralistes. Pour ce qui est des spécialistes, ça va être encore plus criant. Parce que, effectivement, à part à l'hôpital où ils arrivent à recruter des médecins, souvent d'autres nationalités, c'est très difficile. Ouais.
Mais ce que vous dites rejoint ce que vous avez dit, vous, docteur Delon, en entrée, hein, lorsque nous avons commencé cette émission. C'est assez alarmant. J'aimerais bien que vous répondiez à ce que vous avez dit tout à l'heure.
Alors, non, je voudrais quand même aussi répondre sur les spécialistes d'organes. Alors, je rappelle au passage que la médecine générale est une spécialité. C'est une spécialité universitaire. Donc maintenant, on est tous spécialistes. Il y a des spécialistes en médecine générale de soins, qu'on appelle de premier recours, et puis il y a des spécialistes d'organes. Effectivement, et nous sommes relativement bien dotés à Villefranche, il y a aussi beaucoup d'interrogations. Ceci étant, si vous voulez, les médecins généralistes avec le niveau de formation, parce que ça, je voudrais le dire, ils ont une formation impressionnante. Moi, je suis toujours impressionné quand j'accueille des internes de voir le niveau de compétences qu'ils ont. Donc, le champ de la médecine générale est très vaste. Et donc, il ne faut pas se désespérer. On a besoin de spécialistes très pointus dans certains domaines, mais beaucoup de médecins généralistes font ce que autrefois faisaient des médecins dits spécialistes. Donc, bon, les dentistes, ça, c'est autre chose. On ne s'est pas encore arraché les dents.
C'est vrai que les généralistes, ils doivent avoir des connaissances dans tous les domaines, hein, pour prendre en charge leurs patients.
Et la solution de faire venir des étrangers, parce que, bon, moi, il se trouve que j'ai été à Madagascar, et je sais que les médecins étrangers n'ont pas tout à fait le même niveau de formation qu'en France. Est-ce que c'est un danger, ça ?
Les doyens s'inquiètent effectivement du niveau de certains internes. Effectivement, il faut pas oublier qu'il y a des pays où on achète le diplôme. Donc ça pose de grosses questions de compétences. Ça, il n'y a pas de doute. Voilà. Mais bon, je pense qu'inévitablement, on va augmenter le nombre de formations de médecins. C'est inévitable.
Mais ce numerus clausus, depuis qu'on en parle, il existe depuis quand d'abord ?
71, je crois, non ? C'est ça ?
Oui, c'est ça, 71. Oui. Moi, je suis rentré en médecine en 69, il n'existait pas. Ouais, c'est-à-dire qu'on rentrait, on était 1800, il y en avait un tiers qui passait. Bon, 2 ans après, il y en avait 200 ou 300, enfin, vous voyez. Voilà. Il fut un temps où, effectivement, on disait qu'il y a trop de médecins installés, ils ne gagnent pas leur vie, on voulait même nous reconvertir en prof de SVT. Bon, mais tout ça, je rappelle aussi qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a incité des médecins à partir à 57 ans, parce que, soi-disant, il y avait trop de médecins installés sur le territoire.
C'était pour faire des économies par rapport à la sécurité sociale.
Bien sûr. Moins il y a eu de prescripteurs, moins, mais bon. Ce qui est un faux calcul. Mais bien entendu.
Bien sûr.
Le médecin qui va très vite, qui voit 50 patients dans la journée, la meilleure moyenne de se débarrasser de son patient, c'est de prescrire un examen complémentaire. Le médecin qui a du temps, il explique. Ouais. C'est une évidence. Mais bon, nos décideurs ne l'ont pas entendu comme ça.
Et c'est dommage qu'ils soient aussi obtus, parce que ça dure depuis plusieurs présidences de la République, donc depuis plusieurs gouvernements.
Ouais. C'est la raison financière, finalement, hein, qui explique tout.
Après, il y a des calculs qui sont... Il faut savoir que, par exemple, dans le Nord, il y a beaucoup plus de places au concours que dans le Sud. À Montpellier, pour donner une idée, à Montpellier, on a 9,8% de réussite. À Lille, on est à 24%. Ce qui veut dire que... Ah bon. Donc, parce qu'ils estiment que la démographie dans le Nord est plus critique que dans le Sud. Non. Non, parce que nous, ils comptent, quand ils ouvrent les places, ils voient le nombre de la population par rapport au nombre de médecins à l'activité, et donc ils font leur calcul comme ça, mais ils ne tiennent pas compte de tous les médecins d'un tiers qui vont prendre la retraite dans les 5 ans.
Mais pourquoi? Ils ne sont pas idiots quand même, ces gens. Pourquoi ils n'en tiennent pas compte?
Le papier, puisque vous savez, on a affaire à des chiffrocrates, donc si vous voulez, qui divisent le nombre de médecins par les populations, sur le papier, il n'y a jamais eu autant de médecins, mais vous avez beaucoup de médecins qui ne font pas du soin, donc ça aussi il faut le rappeler, qui sont dans des systèmes administratifs et autres, et puis effectivement beaucoup de médecins qui ne sont plus à temps plein. Donc tout ça aussi est, est à prendre en compte.
C'est pas visible, ça.
Voilà. Oui. Bon, ceci étant dit, on parle beaucoup des campagnes, mais vous savez que les centres-villes sont en situation encore plus tendue que certaines campagnes. Donc c'est pas un problème spécifique à nos zones rurales.
Mais est-ce qu'il y a des déserts médicaux dans l'Aveyron, vraiment ?
Écoutez, moi je suis originaire du sud d'Aveyron, je pense que c'est un grand désert médical, mais c'est un, aussi un grand désert de population. Donc c'est vrai que vous ne pouvez pas demander à un médecin de s'installer quand il n'y a plus le, l'école, quand il n'y a plus la poste. Et enfin, voilà. Je crois qu'ils suivent le mouvement, quoi.
Ouais, ouais.
Donc effectivement, les gens se déplacent et les médecins aussi. Quoi.
Donc là, on a centré plutôt sur le curatif. On va parler ensuite du déficit de la prévention, qui me paraît aussi très important. Mais avant, on va écouter un peu de musique.
Que depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang-froid. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes. J'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite, voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'y répliquais. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur. J'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent. J'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent. Les tibias raplapla, les mollets trop épais. Les orteils pas pareils, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Avec une charmante demoiselle, je devais me marier par amour. Mais un soir, comme j'étais près d'elle, en train de lui faire la cour, me voyant troublée, elle me dit, qu'avez-vous? Moi j'y répondais, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôle, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareils, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. En plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi quel souci. La luette trop fluette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est palais, mais les dents c'est navrant, j'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les molaires se font la paire, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche, j'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires, j'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découe et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant, car maintenant je suis forcé.
Mais je pense que les anciens auront reconnu Évrard, je ne suis pas bien portant. Bernard.
Alors, il me semble qu'on n'a pas assez insisté sur les remèdes. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette situation un peu inquiétante, nous disait le docteur Delon. Patrice.
Bon, il y a plusieurs. Donc, je parlais après de l'attractivité. Effectivement, c'est le mot-clé, l'attractivité du territoire, l'attractivité pour les jeunes, essayer de leur donner envie de venir. Ça peut être, on a parlé après du contexte économique, tous les services qu'offre le territoire. Mais nous, à Villefranche, nous sommes en train de créer une maison de santé qui sera privée, c'est-à-dire qu'on se l'autofinance, hein, sans demander aucune aide de collectivité, qui va avoir 5 bureaux de médecins, on va être 4, on aura une orthophoniste, une psychomotricienne, diététicienne et cabinet infirmier. C'est pas non plus gigantesque, mais ça permet d'avoir une structure à taille humaine qui, je pense, permet de travailler en meilleure collaboration avec des échanges que je pense aussi fructueux. Et pareil, ça fait partie de l'attractivité, de dire aux jeunes, tu vas pas être tout seul, tu vas pouvoir échanger, parce qu'ils veulent beaucoup changer, tu pourras prendre ton jour de congé, ça, tu seras pas à la merci de n'importe quel imprévu, on est là pour travailler en équipe, et je crois que cette notion d'équipe est fondamentale, parce qu'on n'est plus comme il y a 20-30 ans, où chaque médecin s'installait tout seul dans son coin, ça je pense c'est terminé. Au niveau de la collectivité de communes, on est en train de réfléchir pour créer d'autres maisons de santé sur le territoire, je peux pas vous en dire plus, parce qu'on est en pleine réflexion, et en plein boulot aussi. Mais j'espère que ça va évoluer aussi.
Oui, donc ça permet une coordination, j'imagine.
Ouais. Absolument, oui. Puis si on parle de la communauté de communes, on peut parler quand même de l'expérience de Villeneuve, qui est quand même une réussite. Ouais. Villeneuve, il y avait un médecin qui voyait partir ses associés les uns après les autres, qui se demandait même si un jour il n'allait pas s'installer à Villefranche. Et puis actuellement, ils sont à 4 médecins, et peut-être même un 5e, jeunes médecins, tous... Donc c'est une réussite. La communauté de communes de Villeneuve a racheté le centre médical, fait des conditions tout à fait acceptables au niveau de loyer et autres, et puis surtout il y a une dynamique et un projet. Donc ça c'est une réussite. Donc il ne faut pas être non plus désespéré. Et je répète, le département de l'Aveyron est montré comme un exemple par rapport justement aux installations. Mais les installations se font effectivement dans des maisons de santé pluriprofessionnelles. De Casseville, 60 professionnels de santé, qui auraient cru que des jeunes médecins de la région toulousaise ou même des Parisiens iraient s'installer à De Casseville. Eh bien, ils y vont parce qu'il y a un projet attractif, il y a une dynamique. Et ça, c'est une belle réussite.
Non, mais c'est intéressant ce que vous nous dites.
Je crois que ce n'est pas la peine d'attendre tout des politiques aussi. Il faut que les citoyennes se prennent en charge en main et créent proposent des solutions privées, oui.
Alors, plus que les citoyennes, les professionnels.
Les professionnels, voilà. Oui.
Parce qu'effectivement, les maisons de santé, c'est une coquille. Si c'est une coquille vide, et si effectivement c'est un projet porté par les élus, uniquement les élus, ce sera un échec. Voilà. Donc il faut qu'il y ait vraiment un projet professionnel derrière.
C'est un vrai travail d'équipe. C'est un travail... nous, on n'a pas pu le faire à la côté de la commune jusqu'à ce que la direction change. Mais bon, je pense, maintenant que je suis en charge de la santé à côté de la commune, je vais prendre l'exemple négatif que j'ai eu avec l'ancienne communauté pour moi-même pousser les nouveaux projets. Ça, c'est mon objectif, il est là. Parce que le territoire va de Villeneuve à la Fouillade, il n'y a pas que Villefranche, il y a du boulot à faire.
Alors, moi, je voudrais insister sur le déficit de prévention. Il me semble qu'il faut changer de culture. Attendre d'être malade pour aller voir le médecin, est-ce qu'on ne peut pas l'éviter ? En ayant davantage de connaissances, l'alimentation, l'hygiène de vie, le sport, éviter l'alcool et la drogue, tout ça intervient quand même pour éviter tous ces malades, non ? Qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est la médecine à l'acte, tout est centré là-dessus, est-ce qu'on pourrait pas éviter toutes ces consultations et tous ces remèdes, parce que j'ai vu qu'en France, il y avait 48 boîtes de remèdes par personne et par an. Ça me paraît fou, ça. Il y a aussi des solutions à ce niveau, non ?
Oui, tout à fait. Nous sommes de gros consommateurs de médicaments et les médecins de gros prescripteurs de médicaments. Bon, ça, c'est notre culture. Bon, ce que tu dis là, moi, je trouve qu'il était aussi tout à fait pertinent. C'est un problème de société, mais qui commence très tôt, et je dirais dès l'éducation. Et donc l'ancien enseignant que tu es devrait aussi s'intéresser pourquoi le corps humain est un programme que l'on fait, je crois, en quatrième, je ne sais plus exactement, mais qui passe après la géologie, alors que le corps humain, on va quand même avoir à le gérer toute sa vie. Moi, j'estime que tout au long du cursus de formation scolaire, on devrait avoir chaque année, un thème qui tournerait autour de la santé. Connaître son corps. Souvent, notre consultation consiste simplement à expliquer les symptômes, tout simplement. Il n'y a pas de prescription, il y a simplement à rassurer les gens. Donc là, c'est un travail mais qui concerne toute la société. Ce n'est pas que les médecins.
L'école aussi. Moi, je pense que dans les associations, bon, je me rappelle, le docteur Mort avait fait une séance sur...
La vitamine D.
La vitamine D, voilà. J'ai été passionné par la vitamine D. Il avait beaucoup... vous avez des informations, il faut les transmettre pour éviter que les gens soient malades, non ?
Oui, mais les choses évoluent malgré tout. Tu parlais donc de la consommation de médicaments. Vous savez que depuis le 1er mars, les médecins peuvent prescrire de l'activité physique et sportive. C'est nouveau. C'est un début, il y a des conditions, bien sûr, ça ne peut pas se faire n'importe où. Mais c'est un début, ça veut bien dire que tout ne passe pas par le médicament.
Mais docteur Calmes et docteur Delon, que préconisez-vous aux hypochondriaques? Aux hypochondriaques, je n'allais pas le dire.
Que tu es?
Non, pas du tout.
Alors moi, je leur conseille de sortir, d'aller au cinéma, au théâtre, de vivre, tout simplement. Et ne pas se centrer sur leur propre mal-être. Ceci étant, je pense qu'il y a une souffrance psychique indéniable. Ouais. Donc ça, il ne faut pas non plus l'ignorer. Elle doit être accompagnée par peut-être une prise en charge psychologique, etc. Ouais. Mais en même temps, vivre, déjà, c'est déjà beaucoup.
Ouais. Qu'est-ce qu'un hypochondriaque, Michel?
Mais c'est les gens qui ont tellement peur de la maladie, vous direz, si je me trompe, qu'ils vont finir, presque ils se rendent malades. Quoi. C'est une obsession. Ils ont l'obsession de tomber malade, c'est ça?
Alors, oui, d'abord c'est très péjoratif, c'est un terme qu'on n'emploie plus, on ne dit plus à un patient, vous êtes un hypochondriaque, sous-entendu, vous êtes un emmerdeur, quoi. Non, on est beaucoup plus...
C'est vous qui le dites.
Oui, je le dis. Non, mais souvent ça a été exprimé, on est beaucoup plus dans une démarche de psychosomatique. Effectivement, la souffrance psychique a un impact sur le corps, mais ça tout le monde l'a vérifié. Mais plutôt que de répondre à la souffrance du corps, il vaut mieux d'abord commencer à s'intéresser à la souffrance psychique.
Tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai un ami de Brive, médecin, qui je rencontre il y a quelques jours. Je lui dis, alors, tu as eu beaucoup de malades? Il me dit, j'ai eu 57 personnes qui sont venues me voir, 57 patients, mais il devait y en avoir à peu près 7 qui étaient vraiment malades. Voilà. Il y a aussi quand même...
Moi, je tiens quand même, comme dit Jean-Paul, à mettre en avant l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est pas seulement manger mieux, c'est faire d'activités sportives, c'est s'oxygéner, c'est voir, avoir une vie sociale. Ça aussi, c'est très important. Hein, parce que quand tu te replies chez toi, dans ta maison, à se méfier de tout, du voisin comme, comme du temps, je pense que c'est pas bon. Hein. C'est pas parce qu'il pleut un peu qu'on peut pas sortir. On n'est pas forcément plus malade. Par contre, l'hygiène de vie, c'est un concept qui doit être général.
Ce sont des choses basiques qu'il est bon de rappeler.
C'est des conseils de bon sens.
Bien sûr. L'alimentation aussi est capitale, je crois.
Ah oui.
On mange trop de charcuterie dans l'Aveyron, c'est connu.
Moi, je crois que les Aveyronnais,
ils nous embêtent, M. Bernard.
Tu peux manger, Bernard, mais tu vas faire un peu de marche après.
Non, il ne faut pas trop descendre la charcuterie quand elle est bonne.
Surtout en ce qui est aussi.
Ou le rafut,
bon, oui, moi aussi, ce que je constate, c'est quand même dans nos régions le vieillissement de nos populations. Et moi, il me semble que ces personnes âgées ont besoin d'accompagnement. Oui. Alors ça, ça déborde le problème des médecins, c'est le problème des aidants, et c'est les problèmes d'une solidarité de proximité. Moi, je vois mon voisin, là, qui a 94 ans. Jusqu'à maintenant, il était solide. Hein, il avait été maçon toute sa vie. Il avait vraiment travaillé dur. Mais maintenant, il a des tas de problèmes et il ne sait pas trop comment se débrouiller. Heureusement, il y a un ancien, son autre voisin qui avait travaillé en pharmacie, il va souvent l'aider. Alors ça, je crois que c'est capital.
Et on appelle ça la fraternité.
Oui. Alors, à ce sujet, on est en train de travailler à côté de la commune avec Serge Roque pour mettre en place un point info senior, qui c'est à mon avis quelque chose de capital, c'est quelque chose que j'appuie beaucoup, c'est-à-dire un référent qu'une personne âgée peut aller voir pour savoir à quelle aide elle a droit, par exemple pour installer un escalier automatique, pour des barres dans sa maison, pour faire les travaux d'isolation. C'est des choses que la personne âgée toute seule ne peut pas faire. Elle ne sait pas à qui s'adresser, elle va pas aller tous les jours sur Internet, ça c'est certain. Et ce point info senior, à mon avis, c'est quelque chose qui va être mis en place, je pense, dans les 3 ans, ça c'est certain. Ça sera une sorte de référent d'aide qui pourra bien piloter la personne pour la... Le but, c'est de la maintenir dans de bonnes conditions le plus longtemps possible à domicile.
Ça, c'est une très bonne chose. Hein.
Ouais. Voilà. Et deuxième chose sur laquelle on commence à réfléchir aussi, c'est d'avoir un meilleur maillage au niveau du partage des repas à domicile. La ville de France, c'est bien, mais la côté de la commune est un peu inégalement, la répartition est un peu inégale à ce niveau. Et ça aussi, c'est quelque chose, si on peut avoir un cahier des charges entre les différents intervenants, de façon que la personne un petit peu démunie à ce niveau, puis savoir à qui s'adresser, je crois que c'est aussi un plus.
Mmh. Ouais, mais alors, ces personnes, quand elles sont plus capables d'une certaine autonomie. Donc, est-ce qu'on pousse à les laisser chez elles en envoyant des infirmières, etc., ou est-ce qu'elles vont dans les maisons de retraite? Mais par rapport, le coût des maisons de retraite, c'est énorme. Quoi. Les gens n'ont pas la possibilité de... Ça, c'est un vrai problème. Les coûts financiers et la santé.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je pense que tu as raison d'insister sur le vieillissement de la population, mais également des pathologies chroniques. Ça, c'est le grand défi de nos sociétés. C'est qu'actuellement, même un cancer, si vous voulez, c'est une pathologie qui devient de plus en plus chronique. Et au passage, moi, je voudrais quand même rappeler l'implication. On a beaucoup parlé des médecins, ce qui est normal, puisque vous invitez deux médecins. Mais l'implication des infirmières est extraordinaire. Parce que c'est elle qui, au quotidien... Vous savez, le médecin, il passe un quart d'heure tous les mois ou tous les trois mois. Mais au quotidien, matin et soir, c'est l'infirmière, c'est l'aide-soignante, c'est l'auxiliaire de vie. Et c'est ça qui permet, effectivement, le plus longtemps possible, le maintien à domicile. Sachant qu'il y a un moment où, effectivement, il n'est plus possible. Et c'est là où l'institution devrait trouver sa place. Malheureusement, effectivement, les coûts sont tels que certaines familles ne peuvent pas assumer le prix de journée d'une maison de retraite.
Ça se passe comment dans ces conditions-là?
Eh bien, ça se passe comment? Il y a une obligation de secours aux ascendants et aux descendants.
L'obligation alimentaire, oui.
Obligation alimentaire, exact, voilà. Donc, si vraiment la personne ne peut plus être maintenue à domicile, eh bien, elle va effectivement dans des structures de soins de longue durée. Et les familles sont tenues, quand il n'y a pas de famille, bon, mais c'est l'aide sociale qui prend le relais. Mais c'est des situations quelquefois dramatiques. Il y a des petits-enfants qui payent pour le maintien de leurs grands-parents dans ces structures.
C'est dramatique parce que, bon, elles sont prises à la gorge financièrement, souvent, et en plus, la culpabilité de placer leurs parents. Et ça, il faut arriver à dédramatiser, à le gérer. C'est sûr que, de toute façon, on n'est jamais mieux que chez soi. Autant que possible, c'est vrai qu'il faut donner la priorité au maintien chez soi. Mais il arrive un moment parfois où c'est vraiment pas possible, c'est dangereux. Surtout pour un patient Alzheimer.
Oui, donc c'est vraiment problématique, ces personnes âgées. Surtout que dans l'Aveyron, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas restés sur place.
Bien sûr.
Moi je vois mes trois enfants... L'une est en Suisse, pas pour les impôts, mais...
On se demandait...
On se posait la question, justement.
Elle est dans une ONG.
À cause de
l'autre est à Paris, l'autre est à Charleville-Mézières. Donc, vous voyez, donc, les enfants, ils partent. Et donc, ça, c'est un vrai problème pour la génération où il n'y avait pas de travail sur place, surtout quand on avait fait des études supérieures, tout le monde partait.
Alors, il y a des expériences intéressantes et innovantes de personnes âgées qui se regroupent. Et ça aussi, bon, ça se fait surtout en ville, effectivement, un peu dans nos régions. Et ça, c'est nouveau. Hein. C'est cette génération qui avait aussi rêvé de la vie communautaire. Bon, quelquefois, certaines l'ont expérimenté et puis ça n'a pas duré. Et bien maintenant, la fin de vie s'approchant, le regroupement de personnes âgées, avec des solidarités, bien entendu, l'embauche, bien entendu, à plusieurs, on peut embaucher une personne qui va être, si vous voulez, au quotidien.
Dans des structures médicalisées, un peu.
Oui, oui, mais qui sont autonomes. C'est-à-dire qu'elles ne demandent pas à la communauté de communes de venir leur trouver un logement. Non, elles s'organisent entre elles, si vous voulez.
D'accord.
Donc ça, c'est innovant. C'est embryonnaire, hein, ne rêvons pas. Mais
ça fait partie des
solutions. C'est des pistes intéressantes.
Voilà, ce sont des idées.
Exactement. Plutôt que de compter sur les enfants qui ont leur propre vie, effectivement, surtout quand ils sont en Suisse.
Un autre problème, effectivement, c'est que je pense que ces structures beaucoup plus souples, ça va être l'avenir, il ne faut pas se leurrer. D'autant plus que le nombre de places en maison de retraite n'évolue pas, alors que la population âgée vieillit, et donc la demande en maison de retraite doit être de plus en plus criante. Donc il faudra bien trouver quelque chose. Hein, ça, quand on voit qu'il y a des situations urgentes où il faut 3 semaines pour avoir une place en maison de retraite, et pas 3 semaines, on va aller à l'hôpital où ça coûte une fortune, où ils ne peuvent pas les garder forcément. Enfin, c'est des situations très très difficiles, quoi. Mais structures souples, moi je suis comme Jean-Paul, il faudrait fortement que ça éclose pour que...
Il faudrait les multiplier, oui.
Jean-Paul, il s'agit du docteur Delon et puis le docteur Calmes qui nous accompagne dans cette émission sur CFM Radio et Radio Présence. L'heure du carillon, alors Bernard qui...
Oui, on va, avant de passer à d'autres thèmes, on va écouter un peu de musique.
Nous allons écouter, si je ne me trompe pas, Serge Lama.
Je suis malade.
Voilà.
ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants.
Alors, une autre dimension qui est importante, parce que moi j'entends autour de moi maintenant la médecine, on a vu ses limites. Moi je vais vers les médecines parallèles, j'ai confiance à mon rebouteux. Pour les brûlures, j'ai une personne qui me soigne. Moi, je fais confiance à l'acupuncture, etc., etc. Vous voyez un peu. Alors, les médecins, je ne sais pas comment ils voient les choses. Là. Est-ce que c'est pas très scientifique tout ça?
Bon, ça a toujours existé. Donc, je crois que de toute façon, oui. De tout temps, certains allaient voir le rebouteux. Moi, je dis que pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est un complément.
Est-ce qu'ils font des bêtises quelquefois?
Alors bon, je pense que maintenant ils sont de plus en plus vigilants, hein, c'est évident. Hein, et souvent d'ailleurs on a des prescriptions de bilan, de scanner prescrits par le rebouteux. Bon,
ça ne fait pas
voilà, chacun son domaine, je crois, voilà, hein, si oui. vous voulez. Mais bon, ceci étant, moi je pense que avec des limites, ça peut pas tout régler, mais ça peut être un accompagnement, quelle que soit la situation.
Votre avis,
c'est pas antinomique.
Enfin, moi, ce que je crains, c'est qu'on est dans une société de méfiance. On est méfiant par rapport à tout, par rapport à tout le monde. Ce qui fait qu'on a tendance fatalement à partir vers les... On se méfie des médicaments, on se méfie des médecins, on se méfie, bien sûr, du voisin aussi, du notaire, du banquier, tout ce qu'on veut. Donc c'est vrai que les médecines parallèles, il y a quand même un certain regain d'activité, je dirais, un regain d'attractivité pour elles. Il faut être par contre, il faut être prudent. Parce qu'effectivement, celui qui met sa plaque, qui se prétend ceci ou cela, et qui a fait un stage de formation, non, c'est pas ça. Après, qu'on soit contre l'acupuncture ou non, l'acupuncture est un complément, moi je suis pas particulièrement contre, mais il faut faire attention à ce que la personne ait quand même au moins quelques bases, peut-être pas médicales, mais quoi, anatomiques, parce que c'est trop facile de mettre sa plaque et de dire je suis, tu n'as pas de ceci, tu n'as pas de cela. Merci, mais...
Mais pourquoi il n'y a pas une réglementation par rapport à ça?
Et justement, c'est ce qu'on réclame, nous.
Alors, la réglementation, elle existe pour l'ostéopathie.
Voilà, mais c'est... Voilà.
L'ostéopathie, il faut quand même avoir validé une école. Bon, la plupart des écoles sont quand même des écoles privées, donc ça, il faut le savoir. Hein. Le diplôme n'est pas un diplôme d'État, mais pour autant, il faut être inscrit sur une liste d'agrément auprès de la préfecture. Donc déjà, c'est un début. Moi, je pense qu'a priori, les jeunes ostéopathes qui s'installent, et souvent d'ailleurs des jeunes qui ont été recalés en médecine, eh bien, s'orientent vers ces écoles d'ostéopathie. Je pense qu'ils font du bon travail, hein. Je crois qu'il ne faut pas non plus contester. Ils ont un bon niveau de formation. Oui. Là où je suis quelquefois un peu inquiet, c'est que le travail clinique se fait souvent entre eux et non pas sur des patients. Hein. Alors, il y a certaines écoles qui arrivent à faire des stages hospitaliers. Mais pour beaucoup, si vous voulez, le stage clinique, c'est-à-dire la pratique, elle se fait entre jeunes de 25 ans. Quoi.
Non, mais le problème n'est peut-être pas tellement avec les ostéopathes, mais plutôt avec les guérisseurs, je ne sais pas.
Voilà. Les magnétiseurs guérisseurs.
On ne pourra jamais empêcher, mais là, on ne pourra jamais réglementer. C'est du domaine de la croyance. Si vous voulez, je crois que c'est comme si on voulait réglementer la religion.
C'est un autre débat.
C'est un autre débat, je le sais.
Oui. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de contrôle sur ces activités. C'est ça notre souci. Nous, c'est pas d'être pour ou contre une médecine parallèle. C'est qu'il faut un minimum de certification d'État pour savoir qui on a affaire. Et on prend pas 60 euros dans une consultation. Comme ça, quoi. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose derrière. Nous, on a une responsabilité. Quand on fait un acte, on s'engage. S'il y a un problème, eh bien, on assume. Je pense qu'il y a beaucoup de médecines parallèles qui font des actes sans même savoir ce qu'ils font et qui n'ont strictement qu'une responsabilité derrière.
Et qui gagnent beaucoup d'argent.
Dans ce système. Oui, absolument.
Il y a aussi des truands chez les médecins, je te rassure.
Je vais faire l'avocat du diable. Que pensez-vous du résultat de certains guérisseurs qui n'ont quand même pas par hasard autant de monde dans leur cabinet?
Alors, moi, je vais vous répondre. L'autre jour, j'ai rencontré un chirurgien orthopédique toulousain qui nous a avoué que certaines opérations du genou où il faisait couvrir et fermer parce que ce n'était pas justifié, les patients, dans 30% des cas, percevaient une nette amélioration alors qu'il n'avait rien fait cliniquement.
Ouais. Ah, les filles,
sauf que l'intervention avait mis au repos l'articulation, et c'était ça qui était le gain. Voilà. Non, mais il y a des résultats surprenants. Moi, je dis qu'après tout, c'est ce qui compte, le résultat. À condition, effectivement, de ne pas se faire avoir financièrement.
Il faut faire très attention, en fait.
Oui. Mais ce qu'évoquait donc le docteur Calmels là, sur cette remise en cause, moi, je crois que c'est aussi symptomatique d'une société où on en a trop. Avec Bernard, on connaît bien Madagascar. Vous savez, là-bas, quand on peut avoir accès à un médecin, on ne se pose pas toutes ces questions. Quand on peut se faire vacciner, on ne se pose pas toutes ces questions de la présence d'aluminium dans le vaccin. Donc tout ça, si vous voulez, c'est du luxe. C'est du luxe. Mais que ça continue, peut-être qu'un jour, ça ne le sera plus du luxe.
Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste. 10 minutes. Oui, alors, on peut évoquer quand même, parce qu'il y a une nouvelle loi de février 2016 sur la fin de vie. Donc, on parle d'une sédation continue, on incite les gens à faire des déclarations au cas où ils n'auraient plus la possibilité de s'exprimer, des directives anticipées. Alors, Ça prendrait une heure de parler de ces problèmes de vin. Mais quand même, moi je pense que ça intéresse les gens. Dites-nous votre sentiment sur cette évolution. Est-ce que ça permettra d'atténuer les souffrances ou est-ce que ça va carrément vers ce que certaines ne veulent absolument pas admettre, c'est-à-dire l'euthanasie?
Alors, moi je pense qu'effectivement il faut revenir au principe de la loi. Donc cette loi qu'on appelle encore la loi Leonetti-Claeys, donc ce sont deux députés, elle réaffirme des principes. Et ça, il faut les avoir en tête parce que quand la loi affirme des principes, on peut s'y référer. Le premier principe, c'est le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée. Le droit, hein. Le deuxième principe, l'interdiction de l'obstination thérapeutique déraisonnable. Interdiction. L'autorisation, c'est ce que tu évoquais, c'est le troisième principe, l'autorisation de sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et ça, on va en parler. Le droit de refuser un traitement, ça, il faut le rappeler, un patient a le droit de refuser un traitement. Et enfin, le droit de rédiger des directives anticipées et de désigner la personne de confiance. Alors, on a retenu effectivement le troisième principe, l'autorisation de sédation profonde.
Qu'est-ce que c'est la sédation?
Alors, la sédation profonde, c'est quoi? C'est en fait une décision qui est prise d'abord par... C'est une décision collégiale. Collégiale, ça veut dire qu'il y a obligatoirement deux médecins qui peuvent donner, donc, qui peuvent prendre la décision, et l'équipe soignante, qui doit être impérativement sollicitée. Donc, lorsque l'on est dans une impasse thérapeutique, c'est le droit, effectivement, de s'endormir jusqu'au décès. Si la personne est consciente, on doit lui expliquer ce qui va se passer. Madame, on va vous mettre en place une perfusion, vous allez dormir, mais vous ne vous réveillerez pas. Donc, il y a des protocoles, c'est très rigoureux, c'est très strict.
Est-ce qu'on l'alimente, là ?
Alors, bien sûr que non, on ne l'alimente plus. Bien entendu que
est-ce
c'est...
Est-ce que c'est pas une cause tu de souffrance
parles, si tu ça parles de l'alimentation artificielle,
oui, bien c'est entendu. Bon. Alors, ce n'est surtout pas, tous les services de soins palliatifs le disent clairement, le fait d'arrêter une alimentation, qu'elle soit entérale ou parentérale, hein, c'est-à-dire dans l'estomac ou dans une veine, et l'hydratation, la personne ne souffre pas. Donc ça, c'est des notions importantes à tout expliquer à aux familles. On va pas laisser mourir ma mère de faim. Ouais. Et non, elle ne va pas mourir de faim. Il y a des mécanismes très complexes qui se mettent en place. Donc, lorsqu'on est dans cette démarche de sédation profonde et continue, bien entendu qu'on n'arrête pas le traitement de la douleur, parce que ça, c'est indispensable et jusqu'au bout. Simplement, la personne va donc s'endormir et elle ne se réveillera pas. Donc, ce n'est pas la sédation qui crée la mort. C'est pour ça que là, il y a souvent une ambiguïté. Pardon ?
On revient au naturel.
C'est une mort naturelle, mais pendant le sommeil de la personne.
Accompagné.
Voilà, oui. Accompagné et pendant le sommeil de la personne. Mais je le répète, ça ne se décide pas un vendredi soir à 19h. C'est un travail qui est fait longtemps à l'avance. Ce sont des produits hospitaliers, donc ils peuvent être prescrits que par des médecins hospitaliers, donc ça aussi il faut le savoir. Donc tout ça, ça se
et c'est prépare. Vraiment en cas de fin de vie, quand il n'y a plus moi, de voudrais, recours possible.
Je voudrais demander votre avis à tous les deux par rapport à un cas qui est actuel en Italie. Il s'agit d'un DJ qui avait tout pour lui, il était beau, il avait la réputation, et dans les discothèques c'était parfait, il était passé à la télévision, voilà. Vous connaissez le problème. Alors ce monsieur, il a eu un accident de voiture, et là, il est dans un état lamentable, il est aveugle, il ne peut pas bouger ou très peu des mains, et il peut parler, et il a souhaité qu'on arrête sa vie qu'il ne considérait pas intéressante à continuer, et ça a été refusé en Italie. Il est allé en Suisse et récemment on lui a permis d'arrêter qu'il vive. Alors j'aimerais avoir votre avis par rapport à ce cas.
Docteur là, tu Calmes. Parles d'une euthanasie, donc d'un cas d'euthanasie.
Oui, là, c'est un cas d'euthanasie, mais bon, on sort de ce que vous avez très bien expliqué et qui est quand même très, très intéressant. Mais ça, c'est un cas spécial qui fait débat et c'est bon d'avoir votre avis, je crois.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai déjà eu des cas de patients qui avaient émis cette hypothèse de partir en Suisse pour, en cas d'altération grave de leur état de santé, pour finir leur jour de façon plus digne. Enfin, c'est comme ça qu'ils le ressentaient qu'en
mais
France.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est votre attitude par rapport à ça ?
Enfin, moi, je suis personnellement, ça me choque pas, quoi. Voilà, personnellement, à titre tout à fait personnel, ça me choque pas.
Je vous rejoins, mais enfin, bon, chacun.
La loi ne le permet pas en France. Donc déjà, nous, on est tenus par la loi, comme tout citoyen. Hein. Mais effectivement, la loi évoluera tôt ou tard.
Et puis il y a le problème de la croyance. Excusez-moi d'intervenir par rapport à là, mais enfin, l'émission, c'est l'heure du carillon. Alors nous sommes des chrétiens là autour de nous. Vous avez votre chemin de vos idées, vos chemins de vie. Mais on est obligé de l'aborder aussi à ce niveau-là.
Dans cette loi, en fait, ni les pro-euthanasie ni les contre-euthanasie ne sont satisfaits. Parce que les partisans de l'euthanasie, ils voudraient qu'il soit écrit clairement dans le texte de loi qu'on peut euthanasier une personne à sa demande. Et ceux qui ne veulent pas l'entendre parler, ils disent mais cette loi, finalement, c'est de l'euthanasie déguisée, la sédation profonde et continue. Bon. Alors, oui, personne n'est satisfait finalement.
Chacun se radicalise parce que en faisant comme ça, tout le monde est dans l'excès. Enfin, je sais pas, mais...
Chaque cas est particulier.
Docteur,
de toute façon,
j'aimerais bien avoir votre avis.
L'Église a beaucoup évolué là-dessus. Ouais, hein. Ouais. Je crois qu'on n'en est pas.
Moi, je crois très sincèrement que quand on connaît la loi, quand on connaît la procédure, on ne peut pas parler d'euthanasie. Ça n'a rien à voir. Rien à voir avec la situation, effectivement, de la Suisse, où vous arrivez, ce ne sont pas des médecins d'abord qui vous accueillent, ce sont des auxiliaires de thanatologie, je ne sais pas comment on les appelle, on vous donne le comprimé, c'est tout à fait différent. Et c'est respectable. Et je suis sûr qu'un jour, on aura la même chose en France, c'est inévitable.
Mais notre loi, elle permet justement elle insiste beaucoup sur le soulagement de la douleur, de la souffrance.
On doit Kouchner ça quand même, hein. C'est bien.
Et c'est vrai qu'il y a, il y a des traitements très puissants maintenant. Et justement, je crois qu'elle est quand même intéressante et que l'important, c'est que tous les médecins et les professionnels la connaissent, cette loi, parce que finalement, elle n'était pas très bien connue. Hein.
Oui, même
c'est un gros problème, ça.
C'est sûr que c'est une loi qui est... Oui.
Alors, qui c'est vrai que si vous voulez, la souffrance physique, on voit ce que c'est, mais il y a aussi la souffrance psychique, morale, si vous voulez. Et ça, malheureusement, on ne peut pas l'évaluer. Hein. Pour certaines personnes, vivre diminué comme ce jeune DJ dont tu parles, qui est quadriplégique, c'est une souffrance énorme, énorme. Et ça, il faut l'entendre.
Et justement, dans des cas comme ça, la loi, elle permet justement de plonger la personne dans un sommeil profond jusqu'à la mort.
Mais écoutez, moi, je crois qu'on
et
a
ça, et ça, l'Église l'admet,
bien sûr,
je crois,
bien sûr,
sans
il
problème.
Il n'y a qu'à lire les
elle
textes.
Elle dit, il n'est pas question... De parler de la valeur de la souffrance, etc., comme on l'a fait.
Oui, mais ça, c'est autrefois, la souffrance ça, c'est rédemptrice, c'est,
oui,
c'est
fini,
tout
ça. Même si un traitement peut amener la mort, pour diminuer la souffrance, je crois que c'est
oui,
admis.
Mais,
donc, il y a eu des évolutions, il faut le dire, quand même.
Cette loi, c'est un grand progrès. Oui, un grand progrès.
Il ne faut pas oublier non plus la souffrance des accompagnants. Hein.
Oui.
Quand tu vois un proche qui est en train d'agoniser en souffrant.
C'est insupportable. Insupportable.
Oui, c'est bien de le rajouter, ça.
Et cette loi, justement, elle permet...
Il y a personne qui souffre, il y a aussi des autres.
Je me rappelle un évêque qui avait le cancer, qui souffrait énormément, qui a dit mais arrêtez de dire des bêtises sur la valeur rédemptrice de la souffrance. Oui. C'est ça, alors là...
Ça détruit l'homme.
Ça détruit l'homme, absolument.
Ouais. Non, puis quelque part, bon, nous croyants, on peut bien admettre qu'il y a un Dieu qui nous a donné la vie, mais tout de même, on l'a vit, cette vie. On a peut-être le droit aussi à ne pas... Quand c'est impossible d'accepter ce qui est intolérable, on a peut-être le droit aussi à donner notre avis. Bien je crois sûr. Qu'on a eu des échanges très intéressants. On peut vous remercier, docteur. Enfin, je te le laisse faire.
Oui, donc merci à tous les participants. On a abordé des problèmes graves. On l'a fait comme on a pu, on n'a pas voulu dramatiser, mais je vous remercie, tous les participants.
Merci beaucoup et à bientôt.
Merci à
bientôt.
Vous.
Merci, docteur. Ouais.